Alors justement, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette guerre secrète, celle des espions russes, celle qui nous menace. On s'intéresse ce soir à ces hommes, à ces femmes infiltrés dans nos sociétés, chargés de déstabiliser nos démocraties, cheval de Troie de Moscou. Qui sont ces taupes russes? Quel profil? Comment agissent-ils? Quel danger représentent-ils? On va en parler dans un instant, mais avant, j'aimerais qu'on écoute cette alerte lancée ce matin par la patronne de la DGSI.
La menace portée par la Russie se traduit par traditionnellement une menace d'espionnage très forte. Peut-être pourra-t-on en parler.
Oui.
Mais aussi des menaces ou des actions d'ingérence ou de déstabilisation qui se traduisent par des faits qui peuvent paraître de faible intensité, qui ne sont pas des faits graves au quotidien, mais qui participent à venir saper nos modèles. On a eu en 2023, on a eu en 2024 un certain nombre d'actions qui ont pu être conduites sur notre territoire par des individus dont nous avons caractérisé qu'ils agissaient pour le compte de la Russie. On peut considérer que le terrorisme présente un risque mortel plus immédiat. La menace en matière d'espionnage et d'ingérence peut paraître moins mortelle, mais elle est très dangereuse pour nos démocraties.
Alors regardons la réalité de cette menace en chiffres. En janvier dernier, les renseignements occidentaux comptabilisent 750 expulsions de diplomates, entre guillemets, russes du territoire des pays membres de l'OTAN, dont 40 en France, un nombre jamais égalé depuis la fin de la guerre froide. Jérôme Poirot, est-ce parce que nos services de renseignement sont beaucoup plus vigilants ou parce qu'il y a clairement une recrudescence des activités d'espionnage russe?
Ah, c'est les deux. C'est tout à fait les deux. La France avait un peu laissé tomber, comme d'autres pays occidentaux d'ailleurs, le contre-espionnage après la chute du bloc soviétique. Tout ça a redémarré selon les pays en Occident au milieu des années 2000 et la France est aujourd'hui au très bon niveau en matière de contre-espionnage. Mais il faut dire que si elle a atteint ce niveau-là, c'est que la menace en face, et d'ailleurs elle n'est pas que russe, est très élevée. Pour mener des opérations comme toutes celles que la Fédération de Russie mène depuis 1991, c'est-à-dire envahir puis annexer la Tchétchénie, envahir une partie de la Géorgie en 2008, envahir une partie de l'Ukraine en 2014, puis en 2022, tout ça nécessite d'avoir partout en Occident des relais, d'avoir préparé le terrain, d'avoir des gens au sein des cercles de pouvoir, dans les médias, il faut bien le dire, partout, des relais.
Bon, je vous rassure, il n'y a pas d'agent russe autour de la table. Non, je préfère le dire.
Qui sait? Ben, vous êtes très bien informé.
Vous êtes peut-être un agent russe, c'est voilà, ça que vous êtes en train de nous dire.
Peut-être. Donc voilà, tout ça
non,
se prépare et ça nécessite... Et puis, par ailleurs, il y a toujours eu, depuis plus d'un siècle, un énorme effort d'espionnage économique, industriel, notamment de technologie militaire, mené par les Russes, puis par les Soviétiques et de nouveau par...
Mais justement, c'est intéressant, Amiral, on parlait entre autres des médias, mais où on les trouve, ces taupes russes? En fait, on les retrouve dans toutes les sphères d'influence?
Oui, partout, dans tous les domaines, comme vient de dire Jérôme Poirot, c'est le domaine militaire, diplomatique, industriel, enfin tous les exemples qu'on a dans notre histoire montrent bien que le système est pour eux. Mm-hmm. Et pour eux, soit par négligence... Il y a bien sûr des convertis, ça on en parle beaucoup, mais c'est souvent par négligence ou mesure pas assez la dangerosité des interlocuteurs auxquels on a affaire. Voilà. Alors c'est plus simple chez les militaires parce qu'on est en frontal, je veux dire. On fait pas copain. Moi j'ai eu comme interlocuteur Baloyevski que certains connaissent. Bon. Un mètre de haut, un mètre de large, et trois bouteilles de vodka par jour. Je veux dire, il n'y a pas tellement l'occasion de discuter. C'est un des prédécesseurs de Garasimov, hein, comme chef des armées. Je veux dire, c'est pas vraiment l'occasion de faire copain-copain autrement que dans des discussions à n'en plus finir au cours de la nuit. Non, c'est beaucoup plus dangereux. Et ça a été dit dans le domaine de la technologie, dans l'industrie, tous les salons du Bourget et autres salons militaires ou de la haute technologie. D'ailleurs, faudrait coudre les poches des gens, et puis maintenant avec tous les appareils avec lesquels on peut faire prendre des photos ou prendre des choses. Il faut s'en méfier.
Les militaires sont des cibles, oui. Sont potentiellement recrutés, peuvent être recrutés.
Bien sûr. Il y a des exemples de temps en temps. On a de temps en temps apparaît comme dans d'autres secteurs le procès d'un militaire qui à tel endroit, pas forcément en France. Le dernier, je crois que c'était à Naples ou dans le commandement de l'OTAN, hein, comme a dit Monsieur Parot, c'est que c'est pas simplement Paris, quoi.
Et vous, vous avez déjà été approché?
Non.
Vous connaissez des gens qui ont été approchés?
Non.
Vous me le direz pas?
Non,
voilà.
C'est long.
Non, mais sur les techniques d'approche, là aussi, c'est intéressant de voir comment on va aborder des personnes qui occupent des postes sensibles, que ce soit dans les médias, que ce soit dans l'armée, que ce soit
dans les réceptions diplomatiques.
Voilà.
Pour vous donner une réponse.
Oui. Alors,
la pêche, c'est d'abord dans des réceptions diplomatiques. Vous êtes invité, pas forcément par l'ambassade de Russie, mais dans une ambassade de la République tchèque ou d'ailleurs, et là, quelqu'un vous aborde pour discuter de façon sympathique et puis demande à vous revoir, crée des liens et un jour vous fait une proposition.
Ça sent le vécu.
Mais tous les correspondants français qui ont été en poste dans l'ex-URSS ont été soumis à ce type de tentative.
Mais vous le sentez, vous le comprenez tout de suite.
On le voit. Vous savez, on est entouré par beaucoup d'agents du KGB, certains identifiés, d'autres pas. Ça fait partie du grand jeu, comme on dit. Mais juste une chose simplement, c'est que c'est vrai qu'on a raison d'être vigilant à l'égard de la Russie, mais il n'y a pas que la Russie. Il y a les Américains qui nous espionnent, hein. Il y a les Chinois qui nous espionnent aussi beaucoup, qui espionnent beaucoup aux États-Unis
aussi.
Aussi,
on a des espions.
Il y a beaucoup de pays dont la pratique d'espionnage est réelle. Mais la Russie étant un vrai symbole, elle est une menace.
Et puis, il y a une tradition, on va en parler avec Elsa dans un instant.
Je voudrais juste dire un mot. Le pire danger, c'est de croire qu'on est supérieur et qu'on va maîtriser ce genre d'approche. Et c'est bien souvent comme ça
Il y a eu le cas célèbre d'un ambassadeur de France à Moscou qui s'était entiché d'une ballerine du Bolchoï.
Ouais.
Et
Deux gens.
Voilà. Et donc, le général de Gaulle l'a reçu et lui a dit alors. On couche, et puis il a démissionné de son poste, et voilà. Mais donc ça arrive, et personne n'est à l'abri, parce qu'on peut être séduit par une jolie femme, et effectivement, ou l'appât du gain, ou l'insouciance,
l'idéologie.
Oui, il y a mille méthodes, mais je vais vous donner quelques exemples. Vous m'arrêterez quand vous voudrez, parce que ça pourrait durer toute la nuit.
Allez-y, on a toute notre soirée.
Mais vous voyez, Henri Plagnol, qui était un jeune conseiller d'Édouard Balladur quand il était Premier ministre, à Matignon de 93 à 1995. Jeune conseiller d'État, plein d'avenir, qui est devenu ensuite député-maire, qui a été même, je crois, secrétaire d'État à la fonction publique. Il a été recruté par Marie Baumgartner, une quasi-sexagénaire de la CIA. Elle le trouvait formidable, effectivement. Donc, elle a croisé dans des réceptions. Et puis, elle a invité à déjeuner régulièrement. C'est toujours elle qui payait le déjeuner. Puis, elle lui a demandé, comme il était tellement intéressant, s'il pouvait lui faire quelques notes, il lui a fait quelques notes. Bon, la DST, c'est-à-dire la Direction de la Surveillance du Territoire, le contre-espionnage de l'époque, s'en est aperçu. Et Henri Plagnol, ce qui intéressait les Américains, c'est très important à cette époque-là, c'était les positions françaises au sein du GATT. Le GATT, c'était le prédécesseur de l'OMC. Et donc, sur l'agriculture française, qui est un sujet toujours très important pour nous et très important par les Américains, et la DST a vu cette manipulation et a demandé ensuite à Henri Plagnol de se transformer ce qu'on appelle en chèvre dans le milieu. Ouais. C'est-à-dire que c'était la DST qui préparait les informations qu'Henri Plagnol ensuite fournissait à cette américaine de la CIA.
Pour l'intoxiquer.
Bien sûr, et ça a très bien marché.
Non, mais il y a des tas d'exemples, et on va en parler, parce que vous avez rencontré un espion, Elsa, vous allez nous expliquer qui est connu et qui a inspiré des scénaristes. On vous dira qui dans un instant, mais j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit en plateau, l'espionnage. Effectivement, tous les pays le pratiquent. Le fait est que la Russie a une tradition, ça fait partie du pouvoir russe d'espionner.
Oui. Ça fait partie de la manière dont le pouvoir russe, héritier du pouvoir soviétique, héritier de la vision bolchevique du pouvoir, s'est constitué avec une police politique, un contrôle politique de sa population en premier lieu, et avec des visées de déstabilisation des démocraties, puisque pendant longtemps, l'Union soviétique a été partisane d'une révolution aussi large que possible, révolution communiste. Et pour les besoins de la révolution, il y avait notamment cette structure qu'on appelait l'Internationale communiste, qui avait des agents de déstabilisation. Et les campagnes de déstabilisation avec des espions implantés dans nos sociétés, avec des fausses nouvelles, avec l'achat de journalistes, avec des attentats, eh bien ça commence dès la période bolchevique, en France notamment. Et cette tradition ne reflue jamais. Elle est même maintenant consubstantielle à la manière dont le pouvoir s'exerce en Russie. Quand Vladimir Poutine arrive à la présidence, c'est quand même un ancien officier du KGB et il présente ses vœux aux successeurs du KGB, c'est-à-dire le FSB, et il leur dit mais ça y est, maintenant on est retourné au pouvoir. Ça y est. On a repris le pouvoir. Et la manière dont c'est géré, c'est effectivement des techniques de déstabilisation. Tout ce qu'on a discuté en Ukraine, en Géorgie, en Moldavie, ce sont des mouvements pseudo-séparatistes qui sont en fait opérés par des officiers de renseignement qui démarrent de pseudo-guerres indépendantistes qui donnent ensuite le prétexte à des interventions russes.
On est avec justement un ancien agent français. Bonsoir Pierre Martinet, vous êtes ancien cadre du service action de la DGSE. On lisait tous les Bonsoir. Pays pratiquent l'espionnage. Merci de nous accorder quelques minutes. Mais il y a un contexte aujourd'hui avec la Russie. Elsa l'a rappelé, il y a une tradition très très forte là-bas. Est-ce que vous diriez que les espions russes sont les plus nombreux et les plus difficiles peut-être à débusquer ?
Alors les espions sont nombreux dans tous les pays et dans toutes les époques. Hein. Comme le rappelait quelqu'un sur votre plateau, on a espionné... On est aussi espionné par la NSA qui espionne tous les pays du globe, notamment même certains téléphones de dirigeants européens. Et là, en l'occurrence, vu le contexte actuel, les missions d'enseignement se sont accélérées évidemment pour avoir de l'information, parce qu'on peut pas faire un pas sans renseignement dans un conflit. Et il y a deux sortes de renseignements. Il y a un renseignement sur un renseignement continu sur du long terme avec des gens qui sont implantés dans les pays, qui ont été recrutés dès la fac hein, pour intégrer des industries qui intéressent le pays en question, nucléaire, aviation, etc. Et ensuite, il y a un renseignement ponctuel parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période de crise et les deux pays ont besoin de renseignements. En l'occurrence, les Russes ont besoin de renseignements. Notamment, je pense qu'aujourd'hui, en Belgique, il doit y avoir une recrudescence de tentatives d'espionnage, notamment à l'OTAN ou l'Union européenne. On peut aussi pénétrer dans des locaux grâce à des services de nettoyage ou des services de sécurité, parce qu'on externalise tout maintenant. Donc tout ce qui est externalisé est possiblement tamponnable, comme on dit dans le jargon, pour pouvoir avoir du renseignement. Les ambassades aujourd'hui, enfin les ambassades ont toujours été le premier lieu de renseignement avec le renseignement électronique.
Alors justement, Pierre Martinet. Pierre Martinet, il y a un article du Monde qui s'est intéressé à une récente vague d'expulsion en Belgique sur les premiers mois de 2023. Une vingtaine de personnes ont été débarquées, essentiellement des hauts responsables de la diplomatie russe à Bruxelles, capitale belge, donc qui abrite les principales institutions européennes. Donc forcément, c'est très sensible. Comment ils arrivent à s'infiltrer dans nos institutions?
Mais ils n'arrivent pas à s'infiltrer puisqu'ils sont, ce sont des diplomates qui sont en place dans les ambassades. J'allais y venir. Tous les gens des ambassades, toutes les personnes dans les ambassades sont potentiellement des agents de renseignement, et notamment le chef de poste des services en question qui a pour mission tout au long.
Mais attendez,
de son...
comment on arrive à retourner ces diplomates, à les convaincre d'espionner pour la Russie?
Alors, il y a plusieurs façons de recruter quelqu'un. Il y a une façon consciente et une façon inconsciente. La façon consciente, ça veut dire que d'abord on cible les individus. Avant de tamponner quelqu'un, avant de le rencontrer, il faut qu'on ait un profil psychologique de cette personne, connaître ses failles, connaître ses habitudes, etc. Et on va trouver un moyen de le rencontrer. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça peut aussi se faire de façon spontanée. Les individus ont aussi dans un conflit comme celui-ci, par exemple, même certains diplomates prennent parti pour la Russie. Donc, consciemment, ils pourraient aller donner du renseignement, ils pourraient aller livrer du renseignement à la Russie ou à un autre pays en guerre. Et une fois qu'on a tamponné l'individu, eh bien, c'est l'agent qui a la formation et les compétences pour pouvoir le traiter. Pour pouvoir le traiter de façon, encore une fois, de façon consciente, hein. Qu'est-ce que c'est recruter quelqu'un? C'est l'argent, le jeu, l'ego, le patriotisme, le sexe, et bien évidemment. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de l'époque avec De Gaulle. Et ça se fait encore.
Et donc c'est pas un film, ça, c'est pas un fantasme d'imaginer qu'il y a un deal autour de du sexe, comme vous expliquez, ça existe.
Non, parce qu'on est formé
existe encore
ça.
Aujourd'hui.
On est formé pour ça dans le stage de formation au sein du service action, dans le stage. Le stage qui dure un an, on a une partie recrutement de source et ça fait partie des. Alors le service action n'est pas forcément axé là-dessus, mais à Paris, au sein de la DGSE, il y a des services qui font essentiellement ça. Mais surtout, les chefs de poste c'est leur job au quotidien de recruter de la source et d'avoir du renseignement en continu. Parce qu'on peut pas avoir du renseignement. Le renseignement, c'est tout le temps, tous les jours, toute l'année. Ça permet d'avancer des pions sur un échiquier. Le renseignement industriel, économique. Militaires, etc., etc. On peut avoir des honorables correspondants dans différents pays. Les honorables correspondants, qu'est-ce que c'est? Ce sont des agents, comment dirais-je, répertoriés dans différentes corporations. Hein. Tout à l'heure, on parlait des journalistes. Les journalistes et les photographes sont une très grande source de renseignements. Il y a énormément d'agents C'est vrai, bien sûr que c'est vrai, j'en connais. Donc, on a des listes dans les services. Ensuite, il y a les industriels, les médecins, les hommes politiques, bien évidemment. Donc, tout ça, ce sont des personnels qui ont été identifiés pour les besoins, soit ponctuels, soit sur de la longue durée, et ça nous permet, comme ça, au fil des ans, d'amasser un maximum de renseignements. Et il y a des renseignements qui, on n'en parle jamais, puisque évidemment, il y a toujours. Vous savez, il y a toujours ces fameuses. On parle souvent des années de la guerre froide avec les échanges d'espions sur le pont des espions. Il y a eu pas mal de films comme ça. Mais aujourd'hui, c'est toujours le cas. La Chine espionne, la France espionne aussi, un peu naïvement, mais on espionne aussi. Mais il y a les gros pays comme les États-Unis et la Russie et la Chine qui continuent à espionner, bien sûr.
Merci beaucoup, Pierre Martinet, de nous avoir accordé quelques minutes. Jérôme Poirot, on détecte le profil psychologique, les cibles, on les tamponne et après on vient les recruter. C'est ça qu'on est en train de nous expliquer. Mais dans quel but? C'est quoi essentiellement? C'est de la collecte d'informations? Quel type d'informations?
Ah ben, vous savez, on est souvent surpris, en fait, par quels sont les sujets d'intérêt des pays étrangers qui nous espionnent. Il y a plusieurs catégories, on l'a évoqué, mais on peut y revenir un instant. Il y a ce qu'on appelle l'espionnage stratégique ou politique, c'est-à-dire connaître les intentions du pouvoir politique. Et donc, infiltrer l'Élysée, infiltrer Matignon, infiltrer l'état-major des armées, infiltrer le Quai d'Orsay, infiltrer Bercy, parce que beaucoup de négociations, notamment à Bruxelles, sur les questions économiques ou dans les organisations internationales, se préparent à Bercy. C'est évidemment très important. Ça l'est depuis longtemps pour les Soviétiques, les Russes, les Américains, les Chinois évidemment de plus en plus, parfois nos voisins aussi ici en Europe. Donc ça, c'est très important. Il y a l'espionnage militaire. Accéder au secret nucléaire, par exemple la bombe nucléaire, la première bombe nucléaire soviétique, elle doit énormément à l'espionnage du site d'Alamo notamment, c'est-à-dire là où ont été conçues et fabriquées les premières bombe nucléaire. Et c'est évidemment beaucoup plus simple, beaucoup plus économique et beaucoup plus rapide quand vous captez des secrets technologiques, voire des matériaux extrêmement sensibles. Dans d'autres pays, ça facilite évidemment la construction de matériel.
Alors justement, comment les espions russes attaquent nos démocraties? Quelques exemples dans l'œil de Raphaël. Oui, parce que ça va bien plus loin effectivement que la recherche d'informations, Raphaël.
Oui, il y a ce qui ne se voit pas forcément, et puis il y a ce qui se voit, et ce qui se voit de plus en plus. Alors, entre espionnage, sabotage et ingérence, la frontière est souvent assez ténue. Quelques exemples ces derniers mois dont on a pu entendre parler. Le 1er juin dernier, je pense qu'on a tous cette image en tête, les 5 faux cercueils qui sont placés devant la Tour Eiffel, recouverts de drapeaux tricolores, on les voit à l'image, avec une inscription. Soldats français morts en Ukraine. Quelques semaines plus tôt, c'était le 14 mai, des tags qui étaient retrouvés sur le mémorial de la Shoah. Et puis, il y avait évidemment les étoiles de David qui avaient été taguées. Et à chaque fois, on retrouve des actions qui visent à perturber ou diviser la société, réalisées par des mercenaires pro-russes. parfois d'ailleurs, qui sont pas forcément des grands espions,
non,
mais qui sont au contraire des mercenaires recrutés sur les réseaux, stade, ouais, sur les réseaux sociaux. Autre élément au cœur des soupçons. Là, on remonte en mai 2024. Les images sont extrêmement impressionnantes. C'est l'incendie d'un des plus grands centres commerciaux de Pologne à Varsovie, qui a été, on le voit, presque réduit en cendres. Et là encore, les autorités ont soupçonné un acte pro-russe.
Et parmi les événements suspects, on retrouve les tentatives d'assassinat.
Et oui, et notamment un complot pour assassiner Armin Papperger, donc en juillet 2024, c'est récent. Alors c'est le patron de Rheinmetall, une entreprise allemande qui n'est autre que l'un des principaux fabricants d'armement, un fournisseur extrêmement important en Ukraine, notamment en obus pour les chars d'assaut et en artillerie. Et il y a un autre élément sur lequel je voudrais vraiment revenir, extrêmement perturbant aussi. Et là, on parle carrément d'un crash d'avion. Un avion DHL qui s'est crashé le 25 novembre dernier. C'est tout récent, en Lituanie. Il était parti d'Allemagne. Il y a un membre de l'équipage qui est mort. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, avait alors dit « Nous devons nous demander s'il s'agit d'un accident ou d'un nouvel accident, hybride. » Et cette interrogation, elle est absolument pas due au hasard. Pourquoi ? Parce que quelques mois plus tôt, en juillet 2024, il y avait justement un colis suspect qui devait être embarqué dans un avion DHL, là aussi, en Allemagne, dans un entrepôt qui avait pris feu. Des éléments qui ont d'ailleurs poussé Donald Tusk, le premier ministre polonais, en janvier dernier, à s'inquiéter publiquement de la possibilité que la Russie organise, je cite, des actes de terrorisme aérien.
Oui. Jérôme Poirot, c'est un risque, ces craintes, elles sont fondées, ces colis piégeux, ça pouvait être dans le cadre d'une préparation d'attentats contre des avions
à
venir.
Oui, manifestement, et les services de renseignement américains avaient décelé cela, et je crois que oui, ça a été dit il y a quelques mois. Je crois que le président Biden avait, ou les autorités américaines, je ne sais pas si c'était le président lui-même, mais avait mis en garde les Russes en leur disant qu'il était évidemment inimaginable qu'ils soient à l'origine d'attentats aériens, qu'il s'agisse effectivement. Le fait que ça soit un avion transportant du fret renforce l'idée d'ailleurs que ce sont les Russes, parce que ça n'a fait qu'une victime. Ça aurait été un tout autre scandale s'il y avait eu 100, 200 ou 300 passagers dans un avion.
Les craintes, c'est que ce soit une forme d'entraînement pour voir si ça fonctionne,
oui,
et si
et
la logistique peut
comment
fonctionner.
Ça peut être décelé. Mais juste un mot sur les 5 cercueils dont vous avez montré la photo. Il faut rappeler que c'était une semaine avant les élections européennes. Donc ça avait vocation à peser sur le scrutin en France, mais aussi ailleurs. C'est quand même
oui, c'est-à-dire qu'on est en permanence entre l'ingérence géopolitique et politique tout court d'ailleurs, et le sabotage pur et simple. Et d'ailleurs, la tentative d'assassinat du patron allemand de Rheinmetall, c'est la CIA qui l'avait révélé.
D'ailleurs, c'est ce que soulève la directrice de la sûreté de l'État belge, qui dit la difficulté qu'on a avec ce genre d'action, c'est que c'est très complexe de faire le lien. Il y a beaucoup d'actions qui sont difficiles à attribuer à la Russie. Amiral, justement, on reste encore une fois très prudent, mais c'est vrai qu'il y a eu cette histoire du porte-conteneur qui a percuté un pétrolier le lundi en mer du Nord. On a appris aujourd'hui que le capitaine était de nationalité russe, que ce pétrolier transportait du carburant à l'armée américaine. Alors on va rester très prudent, pas de conclusion hâtive, mais est-ce que voilà, on peut s'interroger ?
Bon, je crois que c'est de la bêtise là.
Non ?
C'est de la bêtise parce que c'est un peu l'habitude sur ces bateaux. Vous savez, en matière d'affrètement, j'ai souvenir qu'on pistait un bateau qui était susceptible de transporter des armes en Méditerranée, et puis on l'a protégé ensuite parce que l'ONU l'avait affrété pour transporter, pour venir en secours à des populations en Bosnie, enfin dans la région des Balkans. Donc l'affrètement, pour moi, c'est quelque chose, on va au moins cher, y compris les Américains. Bon, là, il se trouve que c'est du kérosène, donc il n'y aura pas forcément de... Et je pense que c'est la bêtise, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas en passerelle, point final, ils dormaient tranquillement, voilà.
Donc là-dessus, vous ne faites pas le lien, mais sur l'espionnage, en revanche, sur l'espionnage dans la marine, vous parlez de l'espionnage militaire, spécifiquement dans la marine, il y avait ce navire espion russe, Yantar, qui avait été repéré au-dessus de caps sous-marins, qui avait été traqué dans la Manche par la Royal Navy, c'était il y a un mois, c'est un sujet, un enjeu.
Là, totalement. Et bon, je voudrais revenir sur deux points. Je vais revenir un tout petit peu en arrière quand je disais que parfois les gens ne se rendent pas compte. Un ingénieur qui est très pointu dans un domaine, qui va discuter avec quelqu'un, il va avoir l'impression de dire des banalités à son interlocuteur, sans se rendre compte que l'autre est en train de prendre des notes. Ça, c'est le, j'allais dire, c'est un danger auquel les ingénieurs, les experts, voilà. Moi, j'ai commandé un porte-avions. Je reçois la visite du ministre russe, c'est Gratchev à l'époque. Alors lui, pour m'amuser, il voulait savoir combien de l'équipage mangeait des repas chauds par jour. Voilà, il ne me croyait pas alors qu'il a été interviewé. Mais pendant ce temps, dans sa délégation, comme par hasard, il y a quelqu'un qui s'était perdu. Il y a 2000 locaux hein, sur un porte-avions, il y a 15 ponts, etc. Qui s'était perdu. Et on se perd facilement, hein, nous. Quand on veut pas perdre un journaliste, on le perd facilement sur un porte-avions. Hein. Non, je plaisante. Mais donc, voilà, c'est ça. On amuse un peu la galerie, hein, et puis par derrière, et bien sûr, non pas dans les toilettes ou la salle de douche de l'équipage, hein, dans un endroit ouais. qui est parfaitement identifié auparavant. Donc ça, c'est un peu le point. Sur les câbles, c'est important. Vous savez que 99% de nos liaisons Internet passent par le front des mers. Alors, il y a des points faibles, c'est l'arrivée sur le continent. Hein. C'est là, bien sûr, où on peut faire, comme les plombiers du canard enchaîné, on peut prendre les liaisons. Et puis, les points faibles, c'est les câbles eux-mêmes, même s'ils sont surveillés, etc. Il y a plutôt 1,5 million de kilomètres de câbles qui courent qui reposent le long des océans. Et là, ils sont pas vraiment protégés. Ils sont durcis, il y a des redondances, mais c'est un point, je dirais pas de faiblesse.
Ouais.
C'est largement redondant. Mais, on peut couper l'Internet et les communications facilement d'un continent. Mmh. Des continents qui n'ont pas beaucoup de points d'accès, on peut couper facilement l'accès à Internet de l'Afrique, par exemple.
Paul Gobeau, j'aimerais bien qu'on revienne avec vous sur la maison mère, entre guillemets, de ces espions russes, ou plutôt les maisons mères. Je lisais dans cet article du Monde, donc cette vingtaine de hauts responsables, de hauts diplomates russes qui ont été expulsés. Et ils ont été identifiés comme des membres de différents groupes, différents services de renseignement, le SVR, GRU, FSB. Est-ce que vous pouvez nous faire la distinction et nous expliquer leur méthode, leur mode d'action, comment ils fonctionnent?
Alors, sans dire de bêtises, je crois que leur mode d'action, leurs méthodes sont plutôt communes à tous ces services. Mais il y a un service militaire, il y a un service interne, externe, et le service interne, celui que je qualifie d'interne, le FSB, est en fait aussi capable de faire des actions à l'étranger. Ce qui d'ailleurs, à certaines périodes, a pu occasionner quelques conflits entre services et batailles à qui ferait la meilleure opération ou qui se ferait attraper le moins souvent. Donc il y a ces tendances qui existent en Russie parmi les services. Alors on voit aussi le FSO qui là pour le coup est vraiment plus lié aux personnalités politiques.
Donc ça c'est
protection.
Le service de renseignement spécifique à Vladimir Poutine.
Et de protection. 50 000 personnes.
Oui. Qui sont à proximité, qui protègent les communications, qui sont à proximité des bâtiments liés au gouvernement russe, qui protègent aussi des personnalités russes moins officielles, notamment des gens qui peuvent vivre autour de Vladimir Poutine
pour dire ça de cette façon-là. C'était... Pas que des filles.
Voilà. Et en fait, bon, bah, le plus célèbre de ces services, c'est le FSB. C'est le plus glorieux, on va dire. Les jeunes qui veulent travailler dans ces services vont certainement plutôt viser le FSB, qui a encore une certaine image et qui généralement déçoit beaucoup une fois qu'on y entre. Moi, j'ai été amené à rencontrer des gens du FSB qui, en fait, étaient...
Je pensais que vous alliez me dire, moi, j'ai été au FSB.
J'ai pas essayé de m'y faire recruter. Je suis pas le genre de personne qu'ils aiment bien avoir autour d'eux. Mais j'avais rencontré un jeune, notamment, qui était tombé de haut une fois qu'il s'était fait recruter, enfin, qu'il avait fait l'école et qu'il était entré au FSB, parce que, exactement, vous passez votre journée au bureau à faire des papiers. Alors, de temps en temps, vous allez faire une rafle d'immigrés. Après, vous en avez pour un mois de papiers à remplir. Et lui, c'était pas comme ça qu'il voyait ça. Et il y avait même une nostalgie du KGB pour ces gens-là qui estimaient que c'était plus glorieux d'être au KGB qu'au FSB aujourd'hui.
Et est-ce qu'il y a certains services qui sont plus brutaux que d'autres?
Oui. En fait, comme le disait Paul, enfin, Jérôme pourrait compléter, mais comme le disait Paul, il y a quand même une communauté de manière d'agir. Et effectivement, la brutalité, elle est très présente à partir du moment où vous faites l'objet d'une opération. Et tant qu'on n'en est pas là, vous la voyez pas particulièrement. Moi, j'avais quand je travaillais en Tchétchénie, je dépendais d'un officier du FSB pour avoir accès à certaines zones, c'est-à-dire qu'il devait me donner un papier avec un tampon. Le jour où ce papier avec un tampon n'a plus été nécessaire, ben je suis retournée le voir pour lui demander de me le donner malgré tout, parce que au passage militaire que je devais passer, où je devais présenter mes papiers, eh ben les combattants tchétchènes qui étaient de l'autre côté me disaient non, ma grande, sans papier tamponné, tu passes pas. J'avais beau dire c'est plus valable, c'est plus nécessaire, il me le fallait. Donc, on peut parler aux officiers du FSB, ce sont effectivement d'abord des officiers administratifs. Mais si vous faites l'objet d'une opération, bah oui, là, toutes les brutalités sont permises.
Vous vouliez rajouter un mot?
Oui, sur la guerre des services, car ça existe partout, et ça existe beaucoup dans la Fédération de Russie. Pendant l'URSS, il y avait, enfin, à la fin, le KGB, donc l'immense service de renseignement intérieur-extérieur, et c'était la guerre permanente avec le GRU, le service de renseignement militaire. Aujourd'hui, il y a trois services, comme ça vient d'être présenté, mais il y a une guerre terrible parce que le FSB a pris l'ascendant, parce que Vladimir Poutine en est originaire, et la guerre entre le FSB et le GRU a des effets aussi considérables en permanence. Cette rivalité est très, très importante. On n'a pas idée des conséquences que ça peut avoir.
Elsa, ouais.
Tout comme ces officiers du FSB sont extrêmement frustrés par l'ascension d'hommes issus soit du FSO qu'on a vu, soit de la garde nationale russe qui a été créée en 2016 et qui, parce qu'ils étaient des gardes du corps de Vladimir Poutine, c'est le cas d'Alexei Dumin, ou parce qu'ils ont servi dans la protection du président, sont élevés à des rangs extrêmement importants, tandis que les hommes du FSB, eux, traînent un peu la patte. Bon,
on fera une émission spéciale sur la guerre des services secrets. Mais Elsa, quand même, moi, j'aimerais revenir sur cette histoire. Vous avez rencontré un de ses espions, celui qui, avec son épouse, a inspiré la série The Americans. Je ne sais pas si vous l'avez vu chez vous ou autour de la table. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça raconte l'histoire d'un couple d'officiers du KGB pendant la guerre froide qui est formé afin de vivre aux États-Unis comme des citoyens américains. Ils ont passé plus de 20 ans là-bas,
comme
sous couverture.
Comme illégal.
Voilà, comme illégal.
Sur les légendes.
Avec des enfants. Avec leurs enfants, avec leur famille.
Ils ne savaient pas qu'ils étaient de parents russes.
Et alors, regardez, parce que ça, c'est la photo. C'est une histoire vraie. Donc, le couple, c'est Andrei
Bezrukov
et Elena Vavilova.
Exactement.
Et vous avez rencontré Andrei Bezrukov.
Oui. Alors, dans mes activités en Russie, j'étais amenée à intervenir dans ce que les Russes aiment appeler le Davos de Russie, donc le Forum économique de Saint-Pétersbourg, quand je dirigeais Oxfam en Russie. Et je suis intervenue, je devais faire de l'entrisme. Et donc, je suis intervenue dans une table ronde où il y avait notamment, entre divers représentants d'institutions russes, Andrei Bezrukov, qu'on m'a présenté parce que, bon, il était utile pour un dossier que je devais traiter. Et c'est un homme qui, après avoir été démasqué, après avoir été échangé, a été traité comme un véritable héros de la Russie, c'est-à-dire qu'il a eu non seulement un poste d'enseignant dans la très prestigieuse académie diplomatique, le MGIMO, mais également il a été remercié en étant promu au conseil d'administration d'une très grande entreprise de pétrole russe, Rosneft, et qui dit présence au conseil d'administration dit jetons et argent. Donc ce sont les manières de célébrer en fait les agents, même quand ils sont démasqués, c'est-à-dire que l'échec est de toute façon une victoire. Hein. Pourtant, il s'est
donc
fait
ils sont casés, on les récompense, ils sont casés dans des postes prestigieux, ils ont une vie confortable.
Ils ont une vie extrêmement confortable, surtout par rapport au commun des Russes, extrêmement confortable. Et ce qui m'a véritablement frappé quand je l'ai rencontré, Andrei Bezrukov, c'est qu'il n'est pas du tout impressionnant physiquement, c'est pas ça les capacités d'un agent en fait. Hein. Mais en plus, est-ce que c'est parce qu'il était américain? Mais il est entièrement refait par la chirurgie esthétique et surtout plus un seul muscle de son visage ne bouge. Il n'a que les yeux de vivant. Donc, quand vous parlez avec lui, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas déchiffrer ses émotions ni ses impressions. Ça le rend absolument blanc. C'est très perturbant. Ça met immédiatement mal à l'aise. En dehors de ça, c'est quelqu'un d'extrêmement courtois. En fait, un espion, ça doit pouvoir devenir votre ami en un claquement de doigts, rapprocher de vous, c'est la base.
Oui, donc ils ont un contact très facile.
Oui, donc c'est l'inverse de James Bond.
Mais ce qui est fou, c'est qu'en plus dans cette histoire, là on voit la photo de famille, les enfants racontent comment ils ont découvert parce qu'ils ne savaient pas du tout qu'ils étaient russes, ils ne savaient pas du tout ce que faisaient leurs parents, ils pensaient qu'ils étaient américains, et ils ont découvert adultes
la vérité. En rentrant au pays.
Oui. C'est quand même.
Comme tout récemment, dans le dernier échange historique qui a eu lieu cette année, des opérationnels, enfin des illégaux russes en Slovénie, pensaient qu'ils étaient espagnols et sont arrivés en Russie. Ils ont été embrassés par Vladimir Poutine et bienvenue dans la grande mère patrie dont ils ne connaissaient pas l'existence, encore moins la langue, et où ils vont devoir vivre comme les enfants d'officiers de renseignement à succès. Pas très évident à endosser comme identité. Hein.
Et Vladimir Poutine leur a dit quelques mots, il me semble, en espagnol. Et il faut vraiment savoir qu'en Russie, il y a ce slogan qui vaut aussi d'ailleurs pour les soldats qui sont aujourd'hui en Ukraine, nous n'abandonnons pas les nôtres.
Un peu comme les Marines.
Et qui fait que si quelqu'un se fait arrêter quelque part à l'étranger, en fait, il revient en héros et il revient forcément à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça que ces gens-là sont une priorité quand il y a des échanges, parce qu'il a promis aux gens de ses services qu'il les ferait toujours revenir en Russie. Et on voit qu'au quotidien,
ça marche.
C'est ce qu'il fait.
Et ça peut se retrouver aussi. Mais
je croyais que vous alliez parler de l'affaire Farwell.
Ah oui.
L'affaire Farwell, c'est-à-dire l'une des plus grandes affaires d'espionnage. C'était un Russe, un Soviétique à l'époque, qui pendant des années a transmis des informations sensibles à la France et qui a d'ailleurs inspiré un film qui s'appelle justement l'affaire Farwell et qui a travaillé pour les renseignements français pendant des années, Monsieur Vetrov.
Non, mais il faut faire une soirée, une nuit intégrale sur ces espions. J'aimerais juste qu'on avance parce qu'on parle de la menace russe, on a parlé de l'espionnage et il y a un domaine où la menace est particulièrement présente, c'est le cyberespace. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, le garde du corps numérique de l'État, a publié son rapport annuel et alerte justement sur cette menace. Elle se traduit comme Comment, Raphaël ?
Déjà, il y a trois principales menaces dans ce rapport. Un, les cybercriminels. Deux, la Chine. Et trois, la Russie. Donc, c'est assez clair. Avec notamment un exemple extrêmement marquant, le piratage de l'hôpital Corbeil-Essonne en 2022. C'est un groupe de hackers pro-russes qui avait chiffré les données et demander une rançon pour les rendre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un rançon logiciel. Ça fait partie des principales techniques de piratage. Il y a aussi ce qu'on appelle le déni de service, c'est-à-dire qu'on bombarde, on sature tous les serveurs pour mettre en panne un service. Et il y a aussi le cheval de Troie. Ça permet notamment d'infiltrer un réseau.
Il pourrait avoir quoi comme
alors
conséquence?
Il y a évidemment les vols de données personnelles, les services bloqués, hein, c'est ce qu'on a vu à l'hôpital, mais ça pourrait être beaucoup plus problématique avec des vrais scénarios catastrophes, des attaques notamment contre des infrastructures critiques. C'est ce qu'évoquait justement Vincent Ostrubel, le patron de l'ANSSI, sur France 5 tout à l'heure.
On avait imaginé plein de scénarios, il y en a qui se sont concrétisés, alors non pas dans leur ça s'est pas produit, mais on a vu des gens tenter de le faire. On a vu par exemple des groupes activistes pro-russes menacer de s'en prendre et essayer de s'en prendre aux stations d'épuration, à l'assainissement des eaux, polluer la Seine. On sait que c'était quand même un sujet complexe, d'attention particulière.
Et il y a une nouvelle tendance qui est directement liée à la guerre en Ukraine.
Oui, un mot qui revient dans ce rapport aussi, on en a parlé d'ailleurs il y a quelques minutes, déstabilisation, une méthode, je cite, fortement liée à l'actualité internationale, forcément une méthode prisée des groupes pro-russes avec un but, perturber notre quotidien, nous faire peur, des attaques qui sont pas forcément évoluées, mais c'est vrai qu'ils sont parfois médiatisées, ça peut être bloqué donc un service populaire avec une attaque par déni de service. Ou encore saboter à distance des petites infrastructures qui sont mal sécurisées. Le rapport mentionne notamment un parc éolien qui a été mis à l'arrêt pendant quelques heures, ou même, encore plus simple, prétendre avoir dérobé des données après un piratage qui n'a jamais eu lieu.
Bonsoir Kevin Limonier, vous êtes spécialiste du cyberespace russe. On voit qu'il y a des attaques très variées, il y a des attaques de très grande ampleur sur les hôpitaux, mais aussi des attaques de petites infrastructures industrielles. Pourquoi ces attaques à petite échelle? C'est quoi le but? C'est de créer une espèce d'anxiété collective?
Bonsoir. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand des hackers attaquent en fait un système, ils vont généralement au plus simple ou en tout cas au plus facile ou à ce qui paraît le plus efficace. Et c'est pour ça que on a ce qu'on appelle en informatique la surface d'attaque, c'est-à-dire en fait le nombre de serveurs que vous pouvez attaquer, comment, etc., etc. Et ce qui se passe, c'est que on a des attaques bien évidemment qui sont spectaculaires, mais pour une attaque spectaculaire, c'est-à-dire qui va avoir des effets politiques, économiques, symboliques, ce que vous voulez, vous avez peut-être 10, 100, 1000 attaques qui, elles, parfois vont passer inaperçues. Il y a l'anecdote, je crois, qui est dans le rapport de l'ANSSI, qui vient de paraître, par exemple, d'un moulin à eau qui avait été attaqué par des hackers russes et qui s'en était d'ailleurs vanté, mais personne ne s'est jamais rendu compte que ce moulin à eau avait été attaqué c'était juste un moulin là-haut. Donc en fait, il faut bien séparer ce qui est de l'ordre de ce que les militaires appellent l'effet final recherché, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qu'on va faire avec cette attaque, et ce qui est de l'ordre du récit. C'est-à-dire que les hackers adorent se mettre en scène, ils adorent se vanter, et c'est d'ailleurs une de leurs principales faiblesses, puisque les hackers adorent signer leurs œuvres. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on peut parfois retrouver leur identité, ou en tout cas identifier les groupes auxquels ils appartiennent. Et ils vont aimer aussi mettre en scène ce genre de choses. Après, il y a bien évidemment une dimension de harcèlement aujourd'hui qui se fait jour dans le cyberespace, puisque vous avez un certain nombre d'acteurs étatiques, non étatiques, para-étatiques, ouais, qui vont faire feu de tout bois. Voilà, et les acteurs russes aujourd'hui sont complètement dans cette optique.
Et justement, expliquez-nous un peu cet écosystème. Qui sont derrière ces attaques? Est-ce que ce sont les services de renseignement russes? Est-ce que ce sont des hackers activistes? Est-ce que ce sont des groupes criminels qui cherchent avant tout des rançons?
Eh bien, un peu tout ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir, des services de renseignement qui peuvent être dotés de capacités techniques, mais qui vont généralement agir sur des segments très précis, très chirurgicaux. On a ensuite des groupes de hackers qui sont plus ou moins liés aux services de renseignement. Et quand je dis plus ou moins liés aux services de renseignement, ça veut dire que ce sont des gens ou des groupes de gens dont les motivations sont extrêmement diverses. Alors, il y a eu pendant longtemps le mythe des hackers patriotes. Alors, ils existent, c'est-à-dire des gens qui vont pirater des serveurs, des sites internet, etc. Pour montrer leur engagement patriotique. Mais on sait aujourd'hui que ces hackers patriotes, en fait, sont une minorité, et c'est généralement pas les meilleurs d'ailleurs, et où ceux qui vraiment là vont plus faire du mal, en fait, vont être soit des gens qui ont été compromis, c'est-à-dire qu'en gros ils se sont fait arrêter ou ils se sont fait prendre la main dans le sac, puisqu'en Russie il y a énormément de groupes de cybercriminels, hein, c'est un des principaux pourvoyeurs de cybercriminalité au monde aujourd'hui, et le FSB ou d'autres services vont pouvoir aller les voir en leur disant tu bosses pour nous, t'évites la prison ou tu évites autre chose. Après, il y a de la menace. Et puis après aussi, il faut voir que c'est un secteur qui se professionnalise beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez énormément de boîtes en Russie qui sont d'ailleurs souvent montées par des anciens des services de renseignement qui se mettent à la retraite ou qui démissionnent ou qui changent de vie, qui vont embaucher leurs anciens collègues et qui vont finalement créer un écosystème d'attaquants. Et ça, on le voit très très bien aujourd'hui avec des relais partout en Europe.